Vous êtes sur RTL.
Place à l'info RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir avec à la une aujourd'hui un triple ballon d'or face à la justice. Dans quelques minutes, la brigade RTL va vous emmener en Suisse. Pourquoi ? Parce que Michel Platini y est jugé depuis ce matin pour escroquerie avec en creux. Derrière ce procès, cette question, est-ce que le numéro 10, comme il le pense, a été victime d'un complot en 2015 au moment où il s'apprêtait à diriger le foot mondial ? Son avocate Najwa Laïté sera notre invitée de 18h15. Les autres titres maintenant à la une, à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Elle a dû se couvrir du sang d'une de ses camarades pour se faire passer pour morte. Le témoignage d'une rescapée de la fusillade d'Uvalde au Texas devant le Congrès américain qui débat en ce moment d'un encadrement limité des armes à feu. À suivre aussi de la santé au pouvoir d'achat, la Macronie qui se déploie à 4 jours des élections législatives, le début du réquisitoire du procès des attentats du 13 novembre et l'ascension fulgurante d'un bleu Aurélien Tchouaméni de Bordeaux à Madrid. Les course dans le Quintet Plus à Laval, il fallait jouer le 6, le 9, le 3, le 7 et le 2.
Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, les dessous de l'impossible exportation des céréales d'Ukraine. Des tonnes et des tonnes de nourriture coincées dans ce pays en guerre alors que l'Afrique s'inquiète et que les prix grimpent. Ici, 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement, s'il vous plaît, avec Cyprien Signy et toute la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Ce soir, on va vous plonger dans les secrets de l'organisation tentaculaire de la FIFA, l'une des associations les plus riches au monde. Au menu également, le métro. Bon pour la planète, pas forcément pour vos poumons. Et le Nutri-Score de votre paquet de céréales en chute libre à cause de la pénurie.
À 19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet, avec les polémistes. Et puis on va refaire le temps tout au long de l'émission avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Est-ce que ça peut être pire qu'aujourd'hui ?
Eh non, demain, bonne nouvelle, ce sera mieux.
Très bien, on détaille tout ça dans quelques minutes. Avec vous, à tout à l'heure Peggy.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et avant toute chose, le témoignage ce soir d'une survivante. Elle s'appelle Mia Cerrillo. Elle a 11 ans et elle a survécu à la fusillade d'Uvalde au Texas. C'était le 24 mai dernier.
Fusillade dans laquelle 19 de ses camarades ont été tués face au Congrès américain par le biais d'une vidéo. La petite fille a raconté et passé un appel pour que ce genre de drame ne se reproduise plus.
Il a tiré sur mon institutrice, il lui a dit bonne nuit, il lui a tiré dans la tête. Ensuite, il a tiré sur mes camarades et sur le tableau. Et quand je me suis rapprochée des sacs à dos, il a tiré sur mon ami juste à côté de moi. J'ai pensé qu'il allait revenir.
Karine Auton, vous êtes la correspondante de RTL aux États-Unis. Le Congrès américain confronté aujourd'hui à l'horreur par le biais de plusieurs témoignages.
Oui, des témoignages d'autant bouleversants qu'on sait tous les blocages qui ont eu lieu année après année au Congrès à Washington en ce qui concerne les armes à feu. Alors ce matin, il y a eu le fils de Ruth Whitefield, une femme de 86 ans fauchée dans le supermarché de Buffalo qui a réclamé de l'action contre le cancer de la suprématie blanche. Et puis, extrêmement touchant, les parents de Mia qui culpabilisent d'avoir tout simplement envoyé leur fille à l'école.
I left my daughter at that school.
J'ai déposé ma fille à l'école. Cette décision m'a détruite pour le reste de ma vie. Mon mari est ensuite arrivé à mon bureau pour m'annoncer la nouvelle. Il m'a dit que notre fils, qui était dans l'école aussi, est en sécurité dans une classe.
D'autres membres des communautés ont réclamé plus de contrôle, ont bien expliqué que la circulation légale des armes automatiques comme le AR-15 était une aberration. La directrice de l'Association de l'Éducation nationale était en pleurs en demandant plus de ressources pour les écoles, pas plus de revolvers. Un pédiatre qui a dû s'occuper des petites victimes d'Uvalde n'a pas mâché ses mots. Pour lui, les seuls médecins capables d'agir contre cette maladie que sont les armes à feu, eh bien ce sont eux, les parlementaires. Il leur a dit, nous sommes en train de saigner sur votre table d'opération et vous n'êtes pas là.
Karine Auton aux États-Unis pour RTL.
RTL Soir.
18h04, tant pis encore pour la période de réserve. Et au lendemain de la mobilisation à l'hôpital, le gouvernement fait de nouvelles annonces.
Sans rien faire savoir en amont, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, s'est rendue au congrès des urgentistes à Paris avec, dans sa besace, Odile Pouget, bonsoir.
Bonsoir.
De premières annonces pour permettre la poursuite de l'activité cet été.
Oui, première mesure, les heures supplémentaires vont être payées double pour tout le personnel non médical, aides-soignants, infirmiers, ainsi que pour les médecins hospitaliers. C'est un dispositif qui existe existait déjà pendant la crise sanitaire. Il est donc réactivé. Autre annonce présentée par la ministre de la Santé comme exceptionnelle, la possibilité pour les élèves infirmières et aides-soignantes qui sortent en juin de leur formation d'exercer sans délai à l'hôpital avant même la délivrance de leur diplôme, remis généralement à l'automne. C'est surtout une simplification administrative, car dans les faits, beaucoup d'établissements faisaient déjà appel à ces jeunes renforts.
Et pour la mise en œuvre,
C'est assez flou. Le ministère de la Santé évoque un délai de quelques jours, sans plus de précision, un dispositif qui devrait courir tout l'été. Combien de bras en plus ces mesures vont-elles apporter? Le ministère n'a pas encore fait ses comptes, mais selon les écoles d'infirmières que nous avons contactées, 21 000 étudiants sortent diplômés chaque année et pourraient donc être candidats si bien sûr ils renoncent à leurs vacances.
Les annonces donc de Brigitte Bourguignon, qui, on le rappelle, est elle-même candidate aux législatives. Nous sommes à quelques jours seulement du scrutin. Odile, après ces annonces, vous avez joint pour RTL l'urgentiste Mathias Vargon. Il était notre invité hier soir dans cette émission. Il s'inquiétait de la fuite des personnels. Aujourd'hui, il juge que ces premières mesures ne régleront pas tout.
Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas, j'espère, mais je reste assez dubitatif. C'est-à-dire que les infirmières, elles vont être engagées à venir plus aux urgences, enfin j'espère, et à l'hôpital, puisque c'est un problème hospitalier, puisqu'elles vont gagner plus en sacrifiant leurs jours de congé. Et pour les élèves infirmières, ça nous permet de les avoir sur le marché beaucoup plus rapidement. Mais je ne sais pas si ça va combler les manques, en fait. On est à un mois des vacances, donc c'est très court en termes de planning. Les gens vont partir en vacances. De toute façon, il est absolument impossible de leur interdire. Alors, peut-être qu'on va pouvoir en décaler quelques-unes. J'attends de voir ce qui va se passer. Tant mieux, sincèrement, je souhaite que ça marche. Je le souhaite. On verra.
L'urgentiste Mathias Vargon, que vous avez joint pour RTL, Odile Pouget, merci.
Et alors justement, en pleine campagne législative, après des annonces sur la santé, on s'intéresse maintenant à l'école, avec un nouveau déplacement d'Emmanuel Macron aujourd'hui, qui lui aussi descend dans l'arène, cette fois sur le thème de la jeunesse et du sport.
Déplacement à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, que vous suivez pour RTL, Vincent de Rosier. En vrai, pour l'instant, Vincent, il a surtout été question du pouvoir d'achat.
Oui, et comme dans toute bonne campagne, il faut sourire, serrer des mains et aider les Français. Emmanuel Macron a fait les trois pour l'instant. Il a promis ici d'aider une habitante handicapée qui veut changer de logement. Là, une étudiante qui peine à s'inscrire dans la filière de son choix. Enfin, il a écouté sans broncher un homme se plaindre des frais de copropriété trop élevés. Et puis en campagne, et à 4 jours du premier tour, forcément, on fait un peu de politique. Les sondages donnent la nupe de Jean-Luc Mélenchon au plus haut. Alors Emmanuel Macron dit tout le mal qu'il pense de cette gauche unie.
Je ne pense pas que des gens qui viennent du socialisme ou de forces politiques républicaines puissent tenir des propos sur la justice ou sur la police comme ceux qu'a tenus Jean-Luc Mélenchon. Et quand je regarde les projets de NUPES et du Rassemblement National, ce sont des projets de sortie de l'Europe, ce sont des projets incohérents sur l'écologie. C'est un projet où il y a 20 taxations nouvelles. Donc c'est pas un bon projet pour le pays.
Emmanuel Macron très offensif et qui joue aussi la sérénité. Notre pays a besoin de stabilité, lâche-t-il. Les Français sauront donner une majorité à l'Assemblée au projet que je porte.
La campagne du président donc à Clichy-sous-Bois, Vincent de Rosier. Merci. À 4 jours du premier tour des législatives, la Macronie donc se déploie après l'annonce hier par la première ministre d'une aide inflation à la rentrée.
Inflation qui continue de peser sur notre panier RTL. Dans ce panier, 13 produits du quotidien dont on suit les prix depuis maintenant le mois d'octobre. Encore une augmentation ce mois-ci, plus 1,74%.
Et si l'on regarde même depuis le début de nos relevés, plus 15% à Lille, augmentation qui s'ajoute à celle des prix des carburants. L'essence est passée hier au-dessus des 2 euros en moyenne. Ça fait beaucoup pour ces clients et automobilistes que vous avez rencontrés, Franck Hanson, à la sortie d'un hypermarché de la banlieue lilloise.
Oui, le passage en caisse se fait clairement sentir. Depuis que l'on relève les prix dans ce magasin d'Anglo, les steaks hachés ont augmenté de 20%, presque 50 centimes de plus sur les œufs et céréales. Martine, retraitée, y est d'avant. Attentive.
Oui, d'habitude, ça tourne autour de 95 euros. Là, j'en suis à 150 sans avoir rien exagéré. Oui. Puis alors, il y a des produits, bien sûr, qu'on ne trouve plus, comme la moutarde. Là, je dois maintenant faire mon plein de carburant. Donc, là, je me disais, allez, oups.
D'ailleurs, à la station essence en face, c'est le même refrain.
Je mets que 20 euros parce que je peux pas plus. Donc là, le sans-plomb 95, il a 2,199. Si on met plus d'essence, on peut plus se nourrir. Surtout que nous, on a des grands-enfants, ça nous coûte cher. Il n'y a plus personne qui y arrive, surtout les pâtes, aussi la viande. Et puis l'huile, hein. Là, c'est la double peine. Notre salaire, il suit plus. Il faut arrêter, tout ne vient pas d'Ukraine.
Des consommateurs nordistes un peu résignés qui doivent s'adapter.
On n'a pas le choix, il faut faire avec.
On va dans les discounts.
C'est sûr qu'on n'a pas le choix.
Et pour autant, certains produits sont des valeurs sûres. Les carottes des Hauts-de-France restent à 99 centimes du kilo, mais on ne peut pas rouler avec.
Franck Hanson à Lille pour RTL, pas encore en tout cas.
Allez, votre journal va se poursuivre dans un instant dans RTL Soir, avec le début des réquisitions dans le procès des attentats du 13 novembre. Trois jours pour tenter de déterminer les responsabilités des 20 accusés. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier, RTL Soir.
18h11, la suite de votre journal dans RTL Soir. Il va durer trois jours et c'est du jamais vu dans l'histoire de la justice française. Le réquisitoire dans le procès des attentats du 13 novembre a débuté à la mi-journée.
Trois avocats généraux du parquet national antiterroriste vont se relayer pendant ces trois journées. Bonsoir Cindy Hubert.
Bonsoir.
Vous suivez pour RTL ce réquisitoire qui doit permettre de reconstituer le puzzle de cette nuit d'horreur en 2015.
Et c'est Camille Henquier qui se lève en premier. C'est elle qui s'est rendue sur les terrasses le soir du 13 novembre. C'est elle qui a pénétré dans le Bataclan. Ses premiers mots claquent dans un silence total. L'enfer est vide, les démons sont ici. Que retiendra-t-on de cette audience? Quelles images, quelles paroles resteront? Votre verdict, bien sûr, les récits des victimes, incontestablement. L'odeur du sang et de la poudre, le fracas des explosions qui disloquent les corps. Le tombeau, l'enfer dantesque du Bataclan. La magistrate se souvient du tout début de ce procès, un saut dans l'inconnu. Neuf mois plus tard, il reste des zones d'ombre. Ses réponses se trouvent dans le box. Certains des accusés savent tout, mais ils se sont tus et ils se tairont jusqu'à la mort. Désormais, les trois avocats généraux vont se relayer pour tenter de reconstruire ce puzzle dans ce dossier titanesque d'un million de pages.
Et cette magistrate, comme les deux autres, vit avec le 13 novembre depuis des années.
Oui, elle était chef de la section antiterroriste. L'un était de permanence la nuit du 13 novembre. Le troisième a accueilli les familles des victimes à l'école militaire dès le lendemain. Tous vivent donc avec ce dossier depuis des années. J'y pense jour et nuit, me disait l'un quand je les avais rencontrés à l'aube de ce procès. Ils en connaissent chaque code, chaque PV. Leur réquisitoire doit durer 14 heures. Pour eux aussi, ce procès sera le procès de leur vie.
Cindy Hubert devant la cour d'assises spéciale de Paris pour RTL.
RTL Soir.
Ils ont rendez-vous vendredi avec l'Autriche. Troisième match des Bleus dans la Ligue des Nations et dans laquelle s'invite le Mercato.
Alors si je vous dis Aurélien Tchouaméni, ce nom ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, le milieu de terrain est en train de s'imposer comme un titulaire en équipe de France. Ascension fulgurante remarquée par le Real Madrid qui pourrait l'acheter. Écoutez bien, plus de 100 millions d'euros à Monaco, Nicolas Georgerot.
Oui, trajectoire fulgurante à 22 ans avec une saison qui donne le tournis. Les Bleus, le Real Madrid, tout s'enchaîne en quelques mois. Aurélien Tchouaméni est l'élément essentiel de l'AS Monaco depuis deux saisons, a grandi à Bordeaux, a été formé aux Girondins et il va plonger dans le grand bain, le Real Madrid et ses 14 Ligue des Champions en devenant le quatrième français de l'effectif. La somme déboursée montre l'intérêt du club madrilène et surtout la place qu'il veut lui donner dans l'équipe. Tchouaméni représente l'avenir des champions d'Europe, lui qui n'a pas encore disputé le moindre match en phase de groupe de Ligue des Champions et qui n'a que 4 saisons dans les jambes chez les pros. Les dirigeants du Real rêvent d'une entame similaire à celle qu'il a réalisée chez les Bleus en septembre dernier. Il s'est imposé naturellement pour vivre déjà face à la Croatie lundi soir, sa 10e sélection.
Nicolas Georgerot pour RTL.
Autriche-France, ce sera vendredi. En tout cas, si les Autrichiens parviennent à boucher le trou, hein, qui s'est formé dans le rond central.
Mais
les
oui,
Danois avaient pesté à la fin de leur rencontre. On a vu des photos avec leurs jambes s'enfonçant d'une trentaine de centimètres. Une réunion est convoquée d'urgence.
Oui, la pelouse de Vienne, elle est trouée.
C'est ça.
Merci beaucoup Marion, à tout à l'heure. Le temps Peggy pour
ça
demain.
Ça ira mieux demain.
C'est mieux.
Oui, mais il reste quand même des averses demain sur le flanc est entre les Savoies et le Grand Est. Sinon ailleurs, un temps sec entre nuages et éclaircies sous un ciel variable. Et il fait très beau près de la Méditerranée. Les températures sont stationnaires de 18 à 21 au nord, 20 à 23 dans le sud-ouest et jusqu'à 29 près de la Méditerranée.
Merci Peggy. Petite pause et ensuite direction la Suisse, Bellinzona plus précisément. Petite ville tranquille du Tessin. Michel Platini y est jugé pour escroquerie avec une question en creux. Est-ce que le numéro 10 a été victime en 2015 d'un complot? On va aller rejoindre notre envoyé spécial sur place et nous allons accueillir l'avocate du triple ballon d'or Najwa El Haïti. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
18h, 18 minutes RTL Soir à vos côtés. Bonne fin de journée. Nous nous arrêtons maintenant sur le procès de Michel Platini, le légendaire numéro 10, jugé pour escroquerie depuis ce matin en Suisse, tout comme l'ex-patron de la FIFA, la Fédération Internationale de Foot, Sepp Blatter. Bonsoir Najwa Laïté.
Bonsoir.
Vous êtes l'avocate de Michel Platini. Alors, avant d'échanger ensemble, on va rappeler à nos auditeurs les faits, parce que cette affaire, elle éclate en 2015. Platini, à cette époque, veut devenir patron de la FIFA, et à ce moment-là, le triple ballon d'or est éclaboussé par ce scandale et mis au banc du foot mondial. On va aller rejoindre en Suisse la brigade RTL, notre envoyé spécial à qui nous allons poser quelques questions. Bonsoir Samuel Goldschmidt.
Bonsoir.
Alors, vous suivez ce procès à Bellinzone pour RTL. Expliquez-nous, qu'est-ce que la justice suisse reproche à Michel Platini ?
Alors, Michel Platini a travaillé comme conseiller du président Blatter à la FIFA entre 1998 et 2002. Ça, c'est reconnu par tout le monde, même par le tribunal. 8 ans plus tard, on est en 2011, Michel Platini réclame à la FIFA un salaire, un versement de 2 millions d'euros pour cette prestation. Et Sepp Blatter donne l'ordre de versement au secrétariat de la FIFA. Or, en droit suisse, une créance est prescrite au bout de 5 ans. Ce paiement de 2 millions d'euros est donc sans fondement, un pot de vin, une escroquerie. Blatter et Platini ont affirmé qu'il s'était mis d'accord oralement et sans témoin sur ce versement, ce qui pose un autre problème à la justice suisse et qualifie la gestion déloyale et l'abus de confiance vis-à-vis de la FIFA.
Comment il se défend, Michel Platini ?
Alors, l'ancien numéro 10 et président de l'UEFA reconnaît qu'il a été maladroit, mais il a toujours contesté les accusations de corruption. La prestation a été réelle. Et il y a d'ailleurs une trace écrite de sa demande de versement à la FIFA. Michel Platini et Sepp Blatter, d'ailleurs, contestent à la FIFA le droit d'être partie civile à ce procès. C'est ce qui a été débattu ce matin et rejeté, comme l'explique maître Catherine Olshirazi, avocate de la FIFA.
Pour nous, ces théories n'ont aucun fondement. À ce stade, ce que j'observe, c'est que le tribunal pénal fédéral a rejeté toutes les questions préjudicielles de la défense, tant de M. Platini que de M. Blatter, a confirmé sa compétence pour les juger et a reconnu le statut de partie plaignante de la FIFA. Donc voilà où nous en sommes. Demain, nous continuons avec les auditions, laissant le tribunal travailler. Merci de votre attention.
Et il y aura du travail demain matin, justement. On doit entendre pour la première fois Sepp Blatter et Michel Platini.
Merci beaucoup, Samuel. Najwa Laïté, je reviens vers vous, vous l'avocate de Michel Platini. Cet argent, pour votre client, c'est de l'argent qui lui était dû. Samuel nous explique que Michel Platini a topé oralement avec Sepp Blatter. Ça risque d'être compliqué à prouver, ça, non ?
Non, c'est pas compliqué parce que mes confrères suisses, parce que je ne suis pas la seule avocate sur cette affaire. Côté français, je suis avec Hervé Temim et Gérard Sbili, et côté suisse avec maître Nélène qui plaidera et Solari. Nous, on est confiants en tant qu'avocat parce que Michel Platini dispose de preuves qui prouvent qu'il s'agit non pas d'un paiement déloyal, mais d'arriérés de salaire. D'arriérés de salaire à hauteur de 2 millions de francs suisses, qui se fondent sur un accord oral qui a été, signé, mais verbalement, entre Sepp Blatter, qui n'était pas à l'époque président de la FIFA encore, et Michel Platini, qui a accepté d'être son conseiller, de mener campagne à l'époque pour que Sepp Blatter devienne président de la FIFA.
Est-ce qu'il n'y a pas une forme de légèreté, un accord oral ?
Alors, l'accord oral,
mais
je vais vous dire, l'accord oral, c'est tout à fait possible et tout à fait légal, que ce soit en droit français ou en droit suisse. Simplement, quand vous parliez de légèreté, oui, et Michel Platini l'admet aussi, il a fait preuve de légèreté. Nous-mêmes, avocats, nous conseillons à nos clients d'établir des preuves écrites. Après, autour de ça, il y a des présomptions selon lesquelles, qui sont d'ailleurs importantes et solides, des présomptions selon lesquelles il existait bien un accord oral entre Sepp Blatter et Michel Platini une fois que Sepp Blatter sera élu.
Il y a aussi derrière cette affaire une question. Est-ce qu'on a cherché à évincer Michel Platini ? Parce qu'au moment du scandale, on l'a dit, on est en 2015, il est le grand favori pour prendre la tête de la FIFA et subitement il se retrouve hors jeu. Est-ce que pour vous, pour lui, c'est un complot ?
Alors mes confrères et moi, nous avons analysé le calendrier de tout cela, de cette affaire. Et autant vous dire que ce calendrier est assez suspicieux, je vais dire. Pourquoi ? Parce qu'à peine il annonce qu'il est président
candidat à la présidence de la FIFA que le ciel lui tombe sur la tête. C'est-à-dire que déjà un peu avant l'annonce de sa candidature, mais il y avait déjà des rumeurs le concernant, comme quoi il était intéressé pour déposer sa candidature. Donc ces rumeurs existent. Et le 8 juillet 2015, vous avez une réunion non consignée entre différents procureurs, dont un très très proche de Gianni Infantino, puisqu'il est son ami d'enfance, pour parler on ne sait pas de quoi, puisqu'ils ont tout oublié. Et quand on interroge certains de ces procureurs, ils ont des versions totalement différentes.
On précise à nos auditeurs que Gianni Infantino, c'est celui qui du coup est devenu président de la FIFA, qui est toujours président de la FIFA. Pour vous, il est derrière ce complot, il s'est arrangé avec les procureurs suisses.
En tous les cas, il y a l'ombre de Gianni Infantino, ça c'est certain. Puisque ces réunions consignées, on ne les invente pas, c'est le parquet suisse, on l'appelle le MPCAS, qui dans une ordonnance en date du 2 mars 2020, parle de ces réunions non consignées, cite Gianni Infantino en disant qu'il a cherché à savoir auprès de certains membres du parquet, à savoir quel serait le devenir judiciaire. Les noms sont biffés. Donc on suppose les principaux concurrents sont Michel Platini et Monsieur Sepp Blatter à l'époque.
Quand on vous entend, quand on se replonge dans cette affaire et dans l'histoire récente de la FIFA, on a quand même l'impression d'un gigantesque panier de crabes. À l'époque, en 2015, quand Michel Platini il veut devenir patron de la FIFA, il dit qu'il faut rendre à cette organisation sa dignité. Ça veut dire que lui, il ignorait tout de ces affaires de corruption, de ces scandales qui éclaboussent la FIFA depuis des années ?
En tous les cas, lui voulait, Michel Platini voulait réformer, s'il avait été président de la FIFA, voulait réformer la FIFA, démocratiser le foot, s'éloigner bien sûr du foot business, et puis rendre en effet la dignité à cette instance internationale du foot. Mais l'ombre, je reviens sur l'ombre de Gianni Infantino. Vous avez des réunions qui ne s'expliquent pas avec une partie du parquet.
Suisse,
exactement. Suisse, c'est important de le préciser. Et vous avez un Gianni Infantino qui lui-même a des problèmes avec la justice suisse actuellement, puisqu'il est mis en examen pour délit d'entrave à l'action pénale, au secret de l'instruction. Et pourtant... Il candidate à l'élection, il candidate à sa propre élection de président de la FIFA sans difficulté. Par contre, la présomption d'innocence bénéficie à lui, puisqu'il n'y a pas de commission d'éthique saisie. Mais par contre, elle n'a pas bénéficié à Michel Platini.
Alors qu'à l'époque, Michel Platini a été évincé, effectivement. Comment il a vécu ces années d'exclusion du foot mondial ? Et est-ce qu'il envisage un jour de revenir dans le monde du ballon rond, Michel Platini?
Alors moi, je ne répondrai pas à sa place concernant la deuxième partie de sa question, mais la première, je peux en effet y répondre. C'est qu'il a vécu cet épisode, bien sûr, très très mal. Et d'autant que c'est un large épisode. Vous savez, c'est 8 ans de procédure. 8 ans, on vous insulte quand même parce qu'on vous traite d'escroc. Ça a bien sûr un impact sur sa famille, sur sa femme, Christelle, sur ses enfants. Donc autant vous dire, qu'il le vit très mal. Mais en tous les cas, il est confiant. Il est confiant par rapport à ce procès qui s'ouvre parce qu'il fait confiance à la justice suisse pour y voir un peu plus clair.
Et on l'entendra donc demain lors de ce procès à Bellinzone en Suisse. Merci Najouel Haïté.
Je vous remercie pour votre invitation.
De Michel Platini d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. RTL Soir va se poursuivre dans un très très court instant. Il y aura vos dessous de l'actu, les dessous de l'impossible exportation des céréales d'Ukraine. L'Afrique craint la famine, ici les prix augmentent. Comment sortir de ce pays en guerre, ces denrées qui sont devenues si précieuses, et puis laisser vous tenter dernière avec à la télé une plongée dans le monde des chasseurs de scoop. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir
avec Julien Cellier.
RTL.
18h31, bonne fin de journée avec RTL.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Si vous nous rejoignez, un petit point sur les grands titres de l'actualité ce soir. Les trois grands titres avec vous, Marion.
À 4 jours des législatives et malgré la période de réserve, les nouvelles annonces du gouvernement, cette fois pour les urgences hospitalières, avec notamment le doublement de la rémunération promis des heures supplémentaires. L'alerte du patron de l'ONU, les conséquences de la guerre en Ukraine s'aggravent. Plus d'1,5 milliard de personnes concernées et la crainte d'une vague sans précédent de faim et de misère. Et puis la décision ne concerne que la France. Disney ne dévoilera pas son prochain film d'animation en salle à Noël. Il sera directement diffusé sur sa plateforme Disney Plus pour protester contre le délai imposé dans l'Hexagone après la diffusion en salle.
Merci Marion. Le temps pour demain, un peu mieux. Peggy,
oui,
un peu
mieux,
moins pluvieux.
Beaucoup moins pluvieux même. Il restera des averses, mais surtout sur le flanc est. Allez, quelques gouttes possibles vers Midi-Pyrénées le matin, l'Auvergne, les Ardennes. Mais un temps sec ailleurs, sous un ciel variable entre nuages et éclaircies. Il fera très beau toute la journée entre la Méditerranée et la Corse. Le tout sous des températures stationnaires, 18 à 21 au nord, jusqu'à 23 dans le sud-ouest et 29 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et les dessous de l'impossible exportation de céréales en Ukraine. L'Afrique craint une famine. Ici en France, les prix augmentent. Et pendant ce temps-là, eh bien, des denrées extrêmement précieuses sont coincées dans ce pays en guerre. Bonsoir Sophie Jousselin.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Alors la Turquie a tenté en vain de négocier des corridors avec les Russes aujourd'hui. Il faut dire que sans l'Ukraine, la planète risque d'avoir faim.
Oui, parce qu'avant la guerre, l'Ukraine était le 4e exportateur de blé et de maïs au monde. Kiev exportait chaque mois 12% du blé mondial, 15% du maïs et 50% de l'huile de tournesol. À lui seul, le pays nourrissait 400 millions de personnes. La Somalie et le Liban dépendent par exemple à plus de 50% des céréales ukrainiennes.
Ce blé, ce maïs, ce tournesol... Toutes ces denrées, elles sont bloquées où aujourd'hui ? Dans des ports, dans des silos ?
Alors, à la fois dans des silos répartis sur tout le territoire ukrainien et en particulier dans les régions qui sont occupées par l'armée russe, dans l'est et le sud du pays. D'autres sont stockées dans les 7 ports ukrainiens et plusieurs tonnes sont déjà chargées sur des bateaux qui étaient prêts à quitter le pays. On estime qu'il y a actuellement entre 20 et 30 millions de tonnes bloquées auxquelles vont s'ajouter les récoltes d'été à partir de juillet.
Comment faire sortir ces céréales si Moscou ne joue pas le jeu ?
Alors, la voie 3-2-1-0, pardon, excusez-moi. La voie royale, c'est la voie maritime, mais la Russie exerce un blocus de la mer Noire. Les ports sont minés par les deux pays. L'Ukraine, par exemple, a piégé le port d'Odessa pour éviter un débarquement russe. Donc pour l'instant, c'est une voie de garage. Il reste donc le rail, mais on se heurte là à un problème logistique. Les rails ukrainiens datent de l'époque soviétique et n'ont pas le même écartement que ceux de la Pologne ou de la Roumanie, donc c'est très compliqué. Et puis, un train n'emporte que 2000 tonnes de blé. Il faudrait donc entre 10 et 15 000 trains pour exporter la totalité des stocks. L'Ukraine fait sortir un peu de céréales par la route et par voie fluviale, via le Danube, jusqu'au port de Constanța, en Roumanie. En avril, l'Ukraine a ainsi pu exporter un peu plus d'un million de tonnes de céréales contre 6 millions il y a un an.
Les dessous de l'impossible exportation donc des céréales d'Ukraine. Merci beaucoup Sophie Jousselin.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h34.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, laissez-vous tenter, dernière, ça c'est plus réjouissant. On en a bien besoin, le petit plateau télé du soir avec Isabelle Morini-Bosque. Ces bons conseils pour occuper votre soirée sur le canapé. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir tout le monde.
Alors, vous nous avez parlé, hors antenne, d'un coup de cœur pour le doc État de choc. C'est sur W9, c'est ça ?
Oui, je vous parle tout le temps, même quand vous voulez pas. Oui, j'ai été fascinée par État de choc sur W9. Pourquoi est-ce que je voulais regarder ? Ben, soyons francs. Ben, au départ, parce que c'était présenté par Stéphane Carpentier, c'est toujours d'ailleurs l'un des fleurons du cheptel masculin de RTL. Vous en êtes un autre. Sauf que, ayant regardé pour une mauvaise raison, j'aime beaucoup Stéphane, j'ai continué pour la bonne, parce qu'il est absolument sidérant. Ce reportage consacré aux Strangers, vous savez, ce sont ces paparazzi de l'extrême spécialisés dans le fait divers. Toujours nocturne, toujours dramatique, toujours sensationnel. Ces nouveaux reporters bossent en synergie avec la police, toujours là quand les autres n'y sont pas, avec un objectif, ouvrir le leur d'objectif pour filmer tout et au plus près. Incendie, meurtre, braquage, prise d'otage. Le must étant, par exemple, un type qui prend l'autoroute à contresens et qui provoque un carnage. C'est ce que voit Ken, qui vendra son reportage près de 2000 euros, qui est tout content. Il le vendra à qui ? Aux chaînes d'info, on le laisse conclure.
Pour moi, c'est une bonne histoire, parce que quelqu'un a été éjecté. Donc on a un conducteur à contresens, un accident et quelqu'un éjecté. Ça fait 3 histoires en une. C'est très très bien. Bon, je peux emballer le matériel. C'est bon. Quand c'est dense, c'est vraiment dense. C'est très très bien.
Oui,
ah oui, c'est cynique.
Il y a quand même 3 morts. Mais il ne mesure absolument pas. Il est factuel, on va dire. Ils sont 130 à nourrir les chaînes d'infos, grandes dévoreuses d'images. Donc ça, c'est sur W9. Franchement, ça laisse méduser. Hein. Et à propos de dévorer, sans transition, n'oublions pas la demi-finale de Top Chef sur M6. Comment voulez-vous que je l'annonce? Chaque demi-finaliste impose ce soir son plat aux deux autres. Pour le Belge Arnaud, ce sera la pêche au thon. La pêche, le fruit. Le thon, le poisson. Glenn Viel et Paul Perret, esclaves.
Alors je suis désolé, je suis passé au travers de ce plat merveilleux, apparemment.
T'as vraiment j'aille en Belgique, hein, il se passe des trucs.
Top voilà. Chef et Top Choc. M6 et W9, vos choix pour ce soir. Oui. Merci Isabelle.
Je vous ferai un petit bilan d'audience la semaine prochaine.
Avec grand plaisir. Complète. Vous revenez quand vous voulez dans Laissez-vous tenter dernière. Dans un instant, eux aussi, ils reviennent quand ils veulent. D'ailleurs, ils reviennent tous les soirs. On défait le monde tous les jours dans RTL Soir avec Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier qui se cache là-bas au bout du studio. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
Alors, on va défaire la FIFA. On évoquait à l'instant avec notre invité le procès Michel Platini qui passionne d'ailleurs Isabelle. C'est ce qu'elle me disait hors antenne. On va se plonger maintenant dans la machine à cash FIFA qui brasse des milliards. A tout de suite sur RTL.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.